Éducation et Société, un magazine de l'UPEC, unité de production des programmes d'éducation civique.
Éducation et Société, pour porter toujours haut, toujours mieux, le message de paix et de bien-être des organisations de la société civile congolaise.
Éducation et Société, pour un développement durable en République démocratique du Congo.
Éducation et Société, une tribune d'expression pour les organisations de la société civile congolaise.
Éduquer, c'est investir.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans votre émission Éducation et Société. Éducation et Société, une émission de l'UPEC, unité de production des programmes d'éducation civique. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler de la réforme de la CENI. Et pour en parler, nous avons comme invité M. Modeste Mboningaba. Bonjour M. Modeste Mboningaba.
Bonjour.
Alors chers auditeurs, je vous présente l'invité. M. Modeste Mboningaba est un acteur bien connu de l'intelligentsia congolaise, présent sur le terrain du débat politique depuis l'accession au pouvoir en ex-Union soviétique de Mikhaïl Gorbatchev. C'est à ce moment, en effet, qu'il aperçut le virage qui était en train de s'opérer sur l'échiquier mondial et la nécessité pour l'Afrique de se forger un destin autre que celui qui serait dessiné et imposé par les seuls vrais maîtres de ce continent, jamais véritablement sorti du carcan colonial. C'est dans cette optique qu'il a écrit, en une trentaine d'années, près d'une trentaine de textes portant sur les élections, la démocratie et le développement en Afrique. S'agissant des élections, par exemple, il a notamment publié « Pourquoi vote-t-on ? Quel électeur pour quelle élection ? L'urne et le marché pour le management de la société politique et de l'espace économique africain. » Sur la démocratisation, M. Modeste Mboningaba a écrit entre autres « Croisade contre la médiocratie »,« Comment tuer le tribalisme sans tuer la tribu ?» L'Afrique est-elle démocratisable? Démocratisation de l'Afrique, changement en profondeur ou simple replâtrage? Et enfin, concernant le développement de l'Afrique en général et du Congo-Kinshasa en particulier, il a publié les brochures ci-après. Le micronationalisme, principal obstacle au développement de l'Afrique. Élection, démocratie, développement. Le Congo-RDC peut-il réveiller l'Afrique? Il a aussi écrit Changer le Congolais pour changer l'Afrique. Congo Objectif 2040, préalable pour une vraie émergence en 20 ans. En tant qu'acteur dans les mouvements associatifs, M. Modeste Mboningaba a été, au début des années 90, président de l'Association des anciens élèves du Collège Notre-Dame de la Victoire de Bukavu, devenu plus tard Institut Alpha Giri, et de ce fait, membre du comité directeur de l'Union nationale des anciens élèves de Père Jésuite, une APGS. Dans les années 2000, il sera élevé après un long cheminement à l'intérieur de l'organisation au poste de secrétaire général du Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC, bras séculier de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Au cours de la décennie 2010, il exerça deux mandats successifs de président du comité exécutif de l'Association des anciens étudiants de l'Université Lovanium, aujourd'hui Université de Kinshasa en abrégé ALMA. Invité régulier dans la célèbre émission Profondeur du non moins célèbre animateur Jean-Pierre Kibambi Chintois, après avoir animé plusieurs émissions organisées dans les années 2000 par l'unité de production des programmes d'éducation civique UPEC. Fidèles auditeurs, fidèles auditrices, notre invité de ce jour est actuellement président de la fraternité Monseigneur Christophe Mundi Iroa, membre de l'amicale des étudiants miliciens de l'Ovanium et de la CASAPA, Amilka en sigle, et vice-président du comité directeur de l'association pour la défense des intérêts du Kivu Bukavu, en abrégé ADIB. Alors, chers auditeurs, c'était juste une présentation, donc un portrait de notre invité de ce jour, Monsieur Modeste Mboningaba. Alors, Monsieur Modeste Mboningaba, nous vous avons déjà découvert, ainsi que les auditeurs. Vous dites en guise de conclusion de l'interview que vous avez accordée au journal Le Potentiel à l'occasion du 60e anniversaire de notre indépendance que notre pays est à même d'avoir les meilleurs élus de l'Afrique et même du monde. si nous appliquons la réforme que vous préconisez dans le domaine électoral. Qu'en est-il au juste ?
Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, au terme d'une trentaine d'années de recherche, je suis arrivé à ces résultats, selon lesquels une organisation différente de la vie politique et donc du système électoral peut nous permettre de faire émerger les meilleurs élus, aussi bien au niveau local, provincial que national. Parce que aujourd'hui, tout le monde dit que nous avons une classe politique qui n'est pas à la hauteur des espérances et des attentes des Congolais. Mais on oublie de dire que cette classe politique est en fait l'émanation de la société congolaise, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est cette société congolaise qui produit cette élite politique que nous avons aujourd'hui. Il faut donc changer la base, l'organisation à la base de cette société, pour que cette société puisse sécréter une élite plus en pointe, en quelque sorte. Parce que nous avons tous les atouts pour cela. C'est tout simplement une question d'organisation. J'aurai l'occasion certainement d'y revenir au cours de l'émission. Qui nous permettra de ne faire émerger que les meilleurs d'entre nous, les meilleurs fils et les meilleures filles du Congo.
Alors,
pas seulement comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a effectivement des gens qui ont fait de grandes écoles, qui ont été dans les meilleures universités du monde. Donc, ce n'est plus à ce niveau-là qu'il y a le problème. Parce qu'on peut être à la fois surdiplômé et bandit de grand chemin. C'est ça qu'on n'a pas compris jusqu'ici. On a cru qu'il suffisait d'avoir en face des gens qui avaient fait de bonnes études pour leur donner déjà un certificat de moralité. Alors qu'en réalité, c'est le parcours de la personne qui doit être scruté à la loupe pour s'assurer qu'on a affaire effectivement à quelqu'un qui, sur le plan moral et éthique, sera effectivement le meilleur d'entre nous.
Monsieur Modeste Moningaba, c'est vrai ? Et quelles seraient les retombées de la réforme que vous préconisez, notamment au plan économique, social et de la gouvernance en général ?
Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, le fait de faire émerger seulement les meilleurs d'entre nous, et parce que la société aura changé aussi, parce qu'il faut que la société change d'abord, pour qu'elle puisse, à son tour, faire émerger seulement les meilleurs. Et à partir du moment où nous avons les meilleurs qui nous gouvernent, depuis la collectivité, le quartier, le village, la commune, la province évidemment et au niveau national, nous ne pouvons qu'atteindre ce que j'appelle la bonne gouvernance globale. Parce qu'à ce moment-là, nous n'aurons plus des gens qui vont violer tout le temps les droits de l'homme, par exemple. Nous n'aurons plus des gens qui vont s'en mettre plein les poches lorsqu'ils sont à la tête d'une entreprise ou même dans un ministère, etc. Parce que la société aura tellement changé qu'elle sera elle-même vigilante pour surveiller les faits et les gestes de ses gouvernants. Donc, au plan économique, social et de la gouvernance, comme nous l'avons dit dans un ouvrage qui est sorti aux éditions universitaires européennes en 2018, mais qui n'est pas encore arrivé ici, parce que nous voulions justement d'abord parler de ce que nous voulons faire pour que les gens aient envie de le lire. Donc ce livre est disponible, nous allons bientôt le faire venir pour que les gens puissent comprendre à quel point ces changements juste de la façon de choisir nos dirigeants peut changer radicalement la gouvernance de ce pays et avoir un produit intérieur brut qui va doubler tous les 5 ans parce que la croissance sera à son maximum. Et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte que ce pays est effectivement un don béni de Dieu.
Monsieur Modeste Bonigaba, sur quelle force comptez-vous vous appuyer pour mener à bien cette réforme qui, il faut le reconnaître, va provoquer un véritable chamboulement de l'échiquier politique congolais ?
Oui, vous avez raison de poser cette question parce que généralement, quand on fait réussir, on fait des dialogues et tout ça, on s'adresse toujours aux mêmes forces qui sont là depuis 60, mais qui ne sont plus suffisamment imaginatives pour proposer des pistes nouvelles. Nous avons compris que nous ne pouvons plus nous appuyer sur ces forces-là qui, depuis 60, se complaisent dans la médiocrité ambiante parce qu'elles sont prêtes à toutes les combinaisons pourvu qu'elles restent dans le jeu. Nous pensons que il faut aller chercher maintenant l'intelligence congolaise qui n'a pas été associée de façon étroite à la gestion du pays depuis 60.
C'est-à-dire ?
Cette intelligence, on la recruterait du côté des associations d'anciens élèves, des associations d'anciens étudiants. Ce sont ces gens-là, parce qu'ils sont organisés. Nous avons par exemple, nous les anciens des jésuites, une organisation, comme vous l'avez dit dans la présentation, qui au niveau national, c'est une fédération d'associations des différents collèges, des anciens de ces différents collèges. Mais nous avons même au niveau africain aussi l'Union panafricaine des anciens élèves des jésuites. Et même au niveau mondial, nous avons l'Union mondiale des anciens élèves des jésuites. Et c'est à peu près pareil dans toutes les associations d'obédience catholique, chrétienne en général. Et donc, si on va chercher de ce côté-là, on trouvera des gens qui sont restés un peu comme spectateurs parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon de gérer le pays. Parce que ce sont des citoyens, ils votent, ils font comme tout le monde, mais ils n'y croient pas. Et c'est donc de ce côté-là qu'il faut aller réveiller ces gens qui sont jusqu'ici restés un peu en retrait. Mais il y a aussi les anciens étudiants de nos différentes universités. Nous avons au niveau de l'ex-université Lovanium une association, même deux, une association qui s'appelle Association des anciens étudiants. L'université Lovanium, UNASA, toute la succession là, maintenant ça s'appelle l'université de Kinshasa. Mais tous les anciens de cette université ici qui est au Moamba ont cette association qui s'appelle ALMA. Il y a aussi dans toutes les universités, Kasapa, ils ont leur association, Kisangani, les instituts, c'est la même chose. Donc si avec des idées comme celle-ci, qui veulent changer qualitativement la société, il va être très facile de mobiliser tous les anciens étudiants des différentes universités et instituts supérieurs. De même que, je vous l'ai dit aussi dans la présentation, j'ai été pendant des années secrétaire général du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'Église catholique, je crois qu'il n'y a pas une structure aussi organisée que l'Église catholique, parce que dans chaque paroisse, or il y a plus de 1250 paroisses dans ce pays. Dans chaque paroisse, il y a une phonie. Et donc, chaque jour, la Synco est informée de ce qui se passe partout dans le pays à travers ce système de communication par phonie. Et dans chaque paroisse, il y a ce qu'on appelle la commission justice et paix. Cette commission est animée par les enseignants, les infirmiers, donc les intellectuels du coin dans chaque paroisse. Vous comprenez qu'à ce moment-là, si on arrive à mobiliser ces gens-là, à leur communiquer ce message, pour qu'à leur tour, ils expliquent à toutes nos populations de quoi il s'agit, nous pouvons être sûrs que, en très peu de temps, les gens comprendront qu'effectivement, c'est maintenant que le changement commence.
Alors, M. Modeste, comment cela se passerait-il dans les faits ? Autrement dit, comment devrait-on s'y prendre pour qu'aux prochaines élections générales de 2023, cette nouvelle formule au plan électoral soit déjà d'application ?
C'est une excellente question, celle-là aussi, parce que d'habitude, on croit que nous sommes toujours théoriques, que nous venons dire, voilà, faisons ceci, faisons cela, et puis ça s'arrête là. Non, nous avons effectivement des compétences. Nous avons des compétences dans nos différentes organisations qu'on a citées ici pour faire ce travail-là. Et donc, à partir d'aujourd'hui, on peut déjà commencer à enregistrer les futurs électeurs à différents niveaux. Parce que l'innovation, c'est quoi ? L'innovation, c'est que il s'agit en fait d'une sorte de division du travail. Tous les électeurs qui ont été recensés par la CENI aux dernières élections de 2018, on avait parlé de 40 millions d'électeurs. Eh bien, pour nous, tous les 40 millions d'électeurs restent électeurs. Mais désormais, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que on ne va plus, en quelque sorte, considérer que les élections locales, provinciales, nationales, sénatoriales, etc., se valent. Toutes les élections sont importantes, évidemment, mais n'ont pas les mêmes enjeux. Une élection locale ou communale mal organisée pourrait déboucher sur des troubles graves et provoquer des dégâts au niveau de la commune ou de la collectivité. Maintenant, imaginons le même scénario au niveau de tout un pays. Là, c'est donc le pays tout entier qui prendrait feu.
Alors,
il ne resterait plus rien.
Mm-hmm.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous arrivons à mettre en place cette organisation qui permet à ce que, au niveau local, communal, nous avons les meilleurs d'entre nous comme dirigeants, parce qu'ils auront été élus par des hommes et des femmes qui connaissent les jobs que la personne va exercer. Parce que c'est ça le vrai problème.
Oui.
Il faut connaître les jobs que le candidat va exercer pour mieux choisir celui qui correspond le mieux à ce profil.
Mm-hmm.
Parce que si vous choisissez seulement parce qu'on vous a dit d'aller choisir, bon, d'habitude, à ce moment-là, on dit, bon, est-ce qu'il y a un frais de tribut là-dedans? Oui, il y a un frais de tribut. Ah, ok, donc on va voter pour celui-là.
Mm-hmm.
Alors que ça n'a rien à voir. Le Congo, ce n'est pas une tribu. Le Congo, c'est tous les Congolais dedans.
Oui.
Donc il faut que chaque Congolais, au moment du vote, ne puisse penser qu'à l'efficacité de celui qui va être élu, à sa capacité à gérer au mieux les affaires de la commune, de la province et de l'ensemble du pays.
Est-ce que les Congolais sont préparés à ça?
Mais c'est pour cela que j'ai dit que nous sommes prêts à commencer dès maintenant.
Oui.
Et comment nous allons le faire? Eh bien, nous disons aux gens, commencez à venir vous faire enregistrer comme électeur pour 2023.
Oui.
Lorsque vous arrivez dans le bureau qui devrait être dans chaque village ou dans chaque quartier, parce qu'il faut que vraiment ça soit décentralisé au maximum, vous arrivez, on vous demande de remplir un formulaire, pas en français, dans nos langues, parce que c'est l'occasion de réhabiliter nos langues aussi. On vous demande de remplir un formulaire, si vous êtes au Katanga, il est en Swahili, si vous êtes en Bandaka, il est en Lingala, si vous êtes à Matadi, il est en Kikongo, si vous êtes en Bujima, il est en Chiluba. Et ce formulaire a deux volets. Le premier volet, c'est pour voir si vous avez quand même une idée assez claire de votre province. Parce que ceux qui savent lire et écrire sont les seuls qui pourront choisir leurs élus à partir de la province. Pourquoi? Parce que on ne s'imagine pas à quel point nos électeurs qui ne savent ni lire ni écrire n'ont pas de prise sur leurs élus une fois qu'ils sont partis. Ils ne peuvent même pas lui envoyer un SMS. Vous vous rendez compte? Parce qu'il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Mais s'il sait lire et écrire, son élu qui est dans le chef-lieu de la province, par exemple, il fait une déclaration sur un sujet important et son électeur qui est en train de le suivre peut tout de suite réagir et lui dire, mais je viens de vous suivre dans une déclaration, mais ce n'est pas conforme à ce que vous aviez dit si vous étiez élu. Vous voyez? Donc, le contrôle et la surveillance de l'élu est une chose capitale. Il faut que l'élu sache qu'à tout moment, il est suivi par ceux qui l'ont placé là. Et donc, lorsque vous venez pour vous faire enregistrer au registre électoral là, si vous dites que moi je ne sais pas écrire, on vous dit que ce n'est pas un problème. On vous oriente dans un autre bureau où on enregistre les électeurs au niveau local. Parce que ceux qui ne savent ni lire ni écrire sont de très bons électeurs au niveau local. Parce qu'ils connaissent les gens, ils n'ont pas besoin de savoir lire et écrire pour savoir que telle est quand même la personne qui convient pour diriger notre groupement, notre quartier, notre village, etc. Donc, ne pas savoir lire et écrire est juste un handicap pour envoyer un message pour quelqu'un qui est loin. Et donc, être électeur au niveau provincial exige que vous sachiez au moins lire et écrire dans la langue.
Oui.
Et à ce moment-là, vous aurez à remplir un questionnaire qui va donner votre entendement, votre capacité à comprendre les enjeux de votre province, qui, soit dit en passant, pour la plupart sont des provinces à plusieurs tribus. Donc, il faut que vous soyez capable de transcender votre appartenance tribale et de ne voir que l'intérêt de la province. Et c'est pour cela que, au niveau provincial, vous aurez à répondre à un questionnaire qui permettra de vous situer comme étant un bon électeur au niveau provincial. Au niveau national, ce sera pareil. Le questionnaire qui vous sera soumis permettra à la commission d'apprécier votre niveau de compréhension des problèmes nationaux, voire internationaux. Parce que les élus qui seront choisis au niveau national doivent être les meilleurs d'entre nous, encore une fois, comme j'ai dit, c'est eux qui vont nous représenter dans toutes les instances africaines ou sous-régionales et voire au niveau mondial. Thank you.
Monsieur Modeste Bonigaba, vous affirmez que c'est seulement par cette formule magique que le peuple congolais pourrait enfin devenir propriétaire du Congo à travers ce que vous appelez la véritable démocratie participative. Pouvez-vous vous en expliquer?
Oui, parce qu'effectivement, à partir de cette formule, la participation cesse d'être seulement théorique, sur papier. La participation devient quotidienne. Je viens de vous donner l'exemple de ces SMS que vous envoyez à votre élu, même s'il est à Kinshasa, il se rend compte que qu'il est suivi par son électorat. Et donc, il cesse de faire n'importe quoi.
Qu'on se rassure qu'il ne va pas changer de numéro de téléphone.
Ah, ce serait la meilleure façon encore de se faire disqualifier avant même la fin du mandat. Parce que s'il cesse d'être joignable par ceux qui l'ont mandaté, eh bien, ils peuvent s'organiser pour dire, écoutez, ce monsieur est venu nous escroquer. Parce que ce serait alors là vraiment preuve d'une escroquerie. Il a escroqué nos voix et une fois qu'il a été élu, il a tout fait pour qu'il ne soit plus joignable. Donc, ça, ce serait... Je crois la pire des choses. D'abord, s'ils ont été élus sur la base que j'ai donnée, ils seront tellement rigoureux, tellement sérieux, qu'ils ne pourront jamais faire ça. Ils ne pourront jamais faire ça parce qu'ils auront été choisis parmi les meilleurs d'entre nous. Donc, ils auront été choisis parce qu'ils ont vocation à servir. Donc, de ce côté-là, si nous les avons élus sur les bases que j'indique, il n'y a aucun risque qu'une fois arrivé, il puisse fermer son téléphone.
D'accord.
Ça, c'est clair. Alors maintenant, pour dire qu'effectivement, c'est là que le peuple congolais devient propriétaire du Congo, c'est parce que justement, cette capacité de comprendre les enjeux du monde fait en sorte que son comportement change du tout au tout. Parce que ses élus seront conscients que les électeurs savent exactement ce qui doit être fait. Que le Congo est la chose la plus précieuse qu'il faut protéger. Et donc, moindre écart, moindre dérapage par rapport à cette ligne-là, vous disqualifie d'office. Donc, à ce moment-là, il y aura trois impératifs qui seront directement satisfaits à cause de ces changements. Il y aura d'abord le comportement du Congolais qui va changer du tout au tout. Parce que tout le monde va constater qu'il est effectivement devenu propriétaire du Congo de par ce nouveau comportement. Deuxièmement, plus personne ne pourra émerger s'il n'est pas le meilleur d'entre nous au plan moral et éthique. Nous avons dit que le plan académique, scientifique, ça c'est dépassé. C'est surtout au plan moral et éthique. Et enfin, le fait que tous les Congolais participent chacun à son niveau, c'est là qu'on entre dans la vraie démocratie. Parce que quand vous êtes un joueur de football, vous n'êtes pas nécessairement un joueur de basketball. Donc, il faut mettre chacun là où il sait effectivement jouer, il connaît les règles de ce jeu-là. Il y en a qui peuvent jouer à tous les jeux, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore préparés pour jouer à tous les jeux, mais qui ont vocation aussi à devenir un jour joueur à tous les jeux. Donc, en attendant que ceux qui sont... Parce que quand j'ai parlé de, ça, de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, c'est pas pour dire qu'ils sont condamnés à rester éternellement là. C'est d'ailleurs la meilleure façon de réhabiliter l'école du soir. Parce qu'à la maison, quand votre femme va vous dire, mais toi, tu vois, toi, tu ne votes qu'au niveau local, allez, Lungwa Kuna. Le monsieur va dire, moi, je ne peux pas rester indéfiniment dans cette position. Je vais apprendre à lire et à écrire pour qu'aux prochaines élections, moi aussi, je puisse remplir les formulaires là, pour au moins être électeur au niveau provincial aussi. Vous voyez? Donc, si on veut mettre fin à l'analphabétisme, je crois qu'il n'y a pas meilleur raccourci que celui-ci.
Mais faire participer tous les Congolais au processus électoraux, c'est exactement ce qui se fait ici au Congo et partout en Afrique, depuis le début de la fameuse démocratisation à l'occidentale jusqu'à aujourd'hui. Aux dernières élections générales, en effet, ce sont les 40 millions de Congolais en âge de voter qui ont été convoqués aux urnes. Quelle est dès lors l'originalité et la spécificité de votre approche?
Oui, effectivement, vous pouvez me rétorquer que tout le monde a toujours voté, depuis toujours c'est tout le monde qui vote. Alors qu'est-ce qui change par rapport à ça? Eh bien, je dis que ce qui change, comme je l'ai dit, c'est la nature du vote qui devient un vote plus intelligent. Parce que en 2006, tout le monde est allé voter. Même si on avait appelé, certains avaient appelé au boycott, mais ça c'est normal dans une démocratie
où le vote n'est pas obligatoire.
Ceux qui ont voté, ont voté. En 2011, les gens ont voté. En 2018, mêmement. Mais on constate au fil des scrutins qu'il y a de plus en plus de gens qui n'y vont plus. Donc le taux d'abstention est en train d'augmenter et peut-être aux prochaines élections, si rien ne change, on va se retrouver peut-être avec seulement 20% ou 30% de taux de participation.
Oui.
Ça, c'est une menace grave pour l'avenir de la démocratie
participative dont nous parlons, parce que nous voulons que tout le monde participe.
Mm-hmm.
Alors, aujourd'hui, vous avez vu comment chaque fois, à l'issue du scrutin 2006, 2011 et 2018,
les gens se sont plaints pour dire qu'il y a eu des tricheries, des bourrages d'urnes, une corruption jamais vue, non seulement au niveau des petits électeurs, mais aussi des grands électeurs.
Mm-hmm.
Eh bien, nous disons non au système qui consisterait à réduire le champ démocratique à quelques individus pour choisir, par exemple, au niveau de nos provinces, nos gouverneurs, et au niveau national, nos sénateurs et le président de la République.
Ce qu'on appelle le suffrage indirect.
Mmh.
Ça, ce serait atrophier la démocratie. Nous voulons que les 40 millions d'électeurs recensés par la CENI restent tous électeurs.
Oui.
Mais seulement, la nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est que désormais, nous prenons soin de nous assurer que, au-delà du droit de vote auquel les gens peuvent légitimement prétendre, nous disons que désormais, le devoir de bien élire devient, en quelque sorte, le frère jumeau de ce droit de vote. Si vous avez, effectivement, le droit de vote qui est reconnu, encore faut-il prouver que vous accomplirez de façon responsable votre devoir de bien élire.
Mm-hmm.
Qu'est-ce à dire? Devoir de bien élire, ça veut dire qu'à une élection donnée, vous n'aurez pas besoin qu'on vienne vous souffler à l'oreille pour dire « Pour nous, c'est tel, hein ?» Non, vous-même, vous êtes capable de scruter les dossiers ou les profils des différents candidats pour dire « Ah, pour moi, c'est tel. » Le devoir de bien élire, ça ne veut pas dire que vous allez obéir aux ordres de quelqu'un. C'est vous-même,
par rapport à votre sensibilité et à vos convictions.
Mm-hmm.
Par exemple, si vous êtes un homme de gauche, vous aurez tendance à préférer quelqu'un qui a des idées de gauche.
Mm-hmm.
Si vous êtes un homme de droite, vous serez du côté de celui-là.
Oui.
Si vous êtes plus écologiste, vous choisirez quelqu'un qui développe des idées écologiques. Et ainsi de suite. Donc,
oui.
Bien élire, ça veut dire, effectivement, de façon rationnelle et responsable. Donc, nous voulons qu'à chaque élection, chaque électeur soit capable de choisir son champion de façon responsable et rationnelle.
Prenons le contre-pied, M. Modeste Bonigaba, de ceux qui appellent au retour à une certaine forme de dictature. Vous prônez, vous, l'instauration de la vraie démocratie. De quoi s'agit-il exactement?
Oui, voilà, donc effectivement, je viens de le dire en quelques mots déjà.
Oui.
C'est que certains n'ont pas hésité à dire, écoutez, avec cette démocratie des pacotilles que nous subissons depuis le début des années 90, il vaut mieux l'oublier.
Il vaut mieux avoir un pouvoir fort et éclairé.
Oui, mais le fait de dire ça ne suffit pas pour qu'on ait justement ce pouvoir fort et éclairé. On peut avoir quelqu'un qui vient, et il vient avec des beaux discours pour dire « Moi, je viens pour mettre... » Et puis, une fois qu'il est arrivé, il s'incruste, il met sa famille partout et il veut rester 100 ans. Et il y aura toujours...
Oui.
C'est ça le vrai problème.
Mm-hmm.
Il y aura toujours, dans cette classe politique qui est la nôtre depuis toutes ces années, des gens pour venir soutenir ça.
Mm-hmm.
Pourquoi? Parce que justement, eux aussi n'ont pas peur de la sanction qui devrait normalement les attendre s'ils avaient un électorat exigeant.
Mm-hmm.
Donc si nous voulons mettre fin à cette calamité, parce que vraiment il faut l'appeler ainsi,
mm-hmm.
nous devons nous assurer que désormais, à chaque élection, seuls ceux qui comprennent de quoi il s'agit, quels sont les enjeux qu'il y a derrière cette élection, je viens de vous montrer que
toutes
les sensibilités sont les bienvenues.
Mm-hmm.
Naturellement, avec le système que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas y arriver parce qu'on a 700 partis et toutes ces choses-là. Tout ça doit être repensé. On ne peut pas espérer bâtir un Congo nouveau sur cette base-là. Il faut repenser tout cela et désormais se dire, bon, on va regrouper les gens en fonction, effectivement, de leurs idéologies respectives. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas 700 idéologies.
Mm-hmm.
Hein, aujourd'hui, nous avons plus de 700 partis.
Oui.
C'est par rapport à quoi que les partis naissent. Si c'est par rapport à des idéologies, ce n'est pas vrai parce qu'il n'y en a pas 700. Voilà pourquoi ce nouveau système permet justement de recadrer tout ça,
oui.
de ramener ceux qui sont effectivement, parce qu'il y en a quand même parmi eux, ceux qui,
oui.
ceux qui veulent servir effectivement
oui.
le pays, mais ils se disent, bon, c'est la règle du jeu, il faut entrer dedans, il faut créer un parti, etc. Mais si on leur dit que désormais, ce n'est plus par cette voie-là qu'on va y arriver, mais par une vision claire qu'on montre, qu'on veut mettre en application, eh bien les électeurs, eux aussi, transfigurés, parce qu'ils ne sont plus cette masse qui vient danser
et qui
vous applaudit déjà avant même d'être élu, parce qu'à la fin, il y aura une bière ou un t-shirt ou un petit billet. Ce n'est plus ça. Vous aurez désormais des électeurs qui vont vous poser des questions de fond, qui vont vous demander, mais vous, d'abord, votre parcours là, il y a beaucoup de zones d'ombre. Le fait déjà de savoir qu'on risque de vous poser des questions sur votre parcours et qu'il n'est pas très élogieux, va vous, en quelque sorte, vous bloquer, vous empêcher d'y aller. Parce que vous allez vous dire, non, avec le parcours que j'ai, je vais être déballé maintenant publiquement, tout le monde saura que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et alors que j'aimerais quand même que tout ça reste un peu dans l'ombre.
Oui.
Donc, à ce moment-là, vous allez vous-même vous auto-disqualifier. Donc, avec ce nouveau système, on se retrouve face à des Congolais qui vont enfin ouvrir les yeux sur leur pays et se rendre compte qu'ils ont perdu 60 ans. Les 60 dernières années ont été un gâchis, qu'il faut donc désormais redresser la barre et aller de l'avant.
Monsieur Modeste Boningaba, dans votre interview au journal Le Potentiel, vous affirmez que le décollage manqué du Congo remonte en fait à cette indépendance mal négociée. Pouvez-vous expliquer cela à nos auditeurs ?
Oui, je crois que c'est important parce que souvent les gens disent « Oui, mais ça fait 60 ans qu'on est indépendant, on continue à s'en prendre à la Belgique, est-ce que vraiment c'est injuste ? Parce que maintenant nous sommes là nous-mêmes depuis 60 ans. » Ils ont en partie raison, mais en même temps, ils perdent de vue quelque chose d'essentiel. C'est que en 60, lorsque nous accédons à l'indépendance, nous n'avons pas un personnel politique pour encadrer les Congolais et qui soit à la hauteur des attentes et des exigences. Donc, c'est une réalité objective. On n'a pas ce personnel politique parce que, justement, l'indépendance, on l'a accordée dans la précipitation pour que, justement, nous soyons placés devant cette incapacité à gérer au mieux le patrimoine. Et nous payons ça jusque maintenant. Parce que cela nous a poussé à ne plus tenir compte de cet adage pourtant partagé par tout le monde, selon lequel il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En management, c'est une règle d'or. Si vous placez quelqu'un à une place qu'il ne mérite pas, il détruit. C'est ça qu'on oublie. Parce que les décisions qu'il va prendre sont tellement inappropriées qu'il détruit ce qui est là. Donc, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est une règle élémentaire. Or, nous, en 60, nous sommes retrouvés avec des gens, faute justement de cadres préparés, c'était voulu tout ça.
Oui.
Des gens qui, du jour au lendemain, alors qu'il était ailleurs dans son quartier, mais lorsque la politique a commencé, il a commencé à militer dans un parti qui, par chance pour lui, est devenu un parti qui a gagné pratiquement la majorité au Parlement. Mais il s'est retrouvé du jour au lendemain administrateur des territoires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Un homme comme ça, il va détruire. Il ne sait pas ce que c'est diriger un territoire. Même la juridiction en dessous qu'on appelait, aujourd'hui on appelle ça collectivité. À l'époque, c'était poste. C'était des Mindélé qui étaient à la tête de chaque poste. Mais ce Mindélé-là, il avait des connaissances multidisciplinaires. Parce que c'est lui qui surveillait à ce qu'il n'y ait pas d'érosion, c'est lui qui surveillait la saison des cultures, qui savait ce qu'il fallait faire. Donc, c'était quelqu'un qui avait une formation très poussée. Du jour au lendemain, vous mettez un planton ou un tailleur, et vous vous attendez à quoi à ce moment-là? Vous ne pouvez pas vous attendre à mieux que ce que nous avons connu.
Alors, si c'était à recommencer, que fallait-il faire et qui n'a pas été fait pour éviter au Congo une indépendance mal préparée?
Eh bien, comme je viens de le montrer, si on avait effectivement eu le bon réflexe, on allait se dire, bon, là où on n'a pas de cadre compétent, on doit chercher ailleurs des cadres pour occuper les postes jusqu'à ce que nous ayons un cadre formé national. Mais, évidemment, vous me direz que ceux qui ont donné l'indépendance ne voulaient pas non plus que ça nous réussissions. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais, justement, c'est pour cela que l'autre problème qu'il fallait régler, c'était de tenir compte de ce que j'ai dit dès le début.
Oui.
Des capacités objectives de chaque citoyen. Si en 60 déjà, on avait dit, bon, ok, nous avons l'indépendance, mais pour voter à certains postes, il va falloir quand même être vigilant, ne pas faire ça comme ça avec légèreté. Parce que déjà dans les anciennes colonies françaises d'Afrique,
oui,
les Senghor, les Houphouët-Boigny qui ont été élus pour aller siéger à l'Assemblée nationale française n'avaient pas été élus par tous les villageois. Hein. Il y avait un collège électoral. Pourquoi ? Parce que les Français savaient que si on ouvrait à tout le monde, ben on aurait tous les chefs coutumiers qui se retrouveraient à l'Assemblée nationale française à ne rien dire parce qu'ils ne comprendraient pas ce qui se passe, etc. Et donc, déjà pour eux, parce qu'il s'agissait d'avoir des députés chez eux, mmh, ils ont fait attention à ces critères-là. Mais lorsqu'il a fallu nous donner, nous, l'indépendance, il fallait justement la piéger pour que nous ayons des gens qui sont un peu dans la péprisme, comme on dit.
Oui.
Et c'est ça que nous payons jusqu'aujourd'hui. Donc, en réalité, ce que nous aurions dû faire en 60, c'est ce que Mabika Kalanda nous avait demandé.
Mm-hmm.
On n'a pas voulu le suivre. Mabika Kalanda a dit, il faut remettre en question les systèmes hérités de la colonisation pour que nous puissions nous décoloniser mentalement. Parce que la colonisation est surtout mentale. Aujourd'hui, vous avez vu nos réflexes, c'est toujours des réflexes d'anciens colonisés. Nous sommes toujours dans la logique de dire, oui, mais vous savez, en Belgique, en France, c'est comme ça, et tout ça. Alors qu'il fallait se dire, il fallait déconstruire tout ce qui a été mis en place pour nous dominer, afin de sortir de cette domination.
Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Monsieur Modeste Mbonigaba. Un petit mot de la fin.
Alors, le mot de la fin, c'est tout simplement dire que, comme l'a dit Kofi Annan, l'Afrique meurt par la faute de ses dirigeants. Et si nous voulons changer le leadership africain en général, et congolais en particulier, nous devons imaginer des formules nouvelles, notamment celles-ci, qui permettent à ce que seuls les meilleurs d'entre nous puissent effectivement émerger, nous représenter non seulement au niveau national, mais aussi régional, africain et au niveau, j'allais dire au niveau continental et au niveau mondial. Si nous avons les meilleurs d'entre nous qui nous représentent au niveau continental, mais tout le monde va chercher à savoir comment nous on a fait pour avoir des gens brillants comme ça, mmh, et ils vont nous copier. Parce que la vocation du Congo, c'est ça. La vocation du Congo, c'est de montrer la voie. Si nous montrons que c'est ça qui convient pour que l'Afrique se libère de façon effective, faites-moi confiance, en très peu de temps, toute l'Afrique, en commençant par ceux qui nous entourent, vont adopter la même formule avant d'arriver à l'étendre au niveau continental.
Merci, Monsieur Modeste Mbonigaba. Merci à vous, nos très chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Éducation et Société. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission que vous aimez tant, Éducation et Société, une émission de l'UPEC, entendez, unité de production des programmes d'éducation civique. Aujourd'hui, nous avons parlé de la réforme de la CENI et nous avons eu comme invité Monsieur Modeste Mbonigaba, qui est vraiment un acteur bien connu de l'intelligentsia congolaise. Il est vraiment présent sur le terrain du débat politique. Alors, Monsieur Modeste Mbonigaba, merci d'avoir répondu à cette invitation. Au micro, c'était votre servante Sandra Diatta et à la réalisation, Théo Tchabela. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et à la prochaine.
Éducation et Société, un magazine de l'UPEC, unité de production des programmes d'éducation civique.
Éducation et Société, pour porter toujours haut, toujours mieux, le message de paix et de bien-être des organisations de la société civile congolaise.
Éducation et Société, pour un développement durable en République démocratique du Congo.
Éducation et Société, une tribune d'expression pour les organisations de la société civile congolaise.
Éduquer, c'est investir.